du Coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver ici en direct de Briançon pour le numéro 721 du Coq à l'âne avec donc les deux coqualiens, Philippe Stocklier et Mich Wissa. Messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Et au soleil.
À Briançon. Nous sommes en terrasse ici de la taverne Table de Caractère, très important. Et notre invité, Philippe va nous le présenter dans un instant, que je salue, Yves Honoré. Bonjour Yves.
Bonjour.
Et la parole, bien sûr, comme d'habitude, à Philippe.
Bonjour Yves Honoré, ex père comptable, puisque aujourd'hui en retraite. De ce fait, vous avez vu, j'ai évité de dire du coup. Hein. Yves, tu vas avoir droit à la question rituelle. C'est en connaissance de cause, on me la pose toutes les 5 minutes. Alors Yves, ça se passe bien cette retraite? Tu ne t'ennuies pas trop?
Ça, c'est vraiment la question rituelle des gens, peut-être jaloux d'ailleurs, parce qu'ils ils doivent se dire, ça doit être génial. Et effectivement, je confirme, c'est génial d'être en retraite.
Pareil.
Donc, on fait ce qu'on veut.
Rémi, pareil.
Pareil.
Mais honnêtement, pour ceux qui vont être en retraite, il y a quand même une année compliquée. C'est la première.
C'est sûr.
Après, c'est bon.
Yves, tu es aussi un ex-candidat aux élections municipales de Briançon sur une liste LREM en 2020. Et là aussi, de ce fait, en retraite. Alors, ça se passe bien cette retraite? Tu t'ennuies pas trop?
Alors, je m'ennuie pas trop, mais je suis toujours intéressé par tout ce qui est domaine politique. Et du coup, voilà. Mais c'est une retraite... tout à fait agréable.
Yves, je suis vraiment heureux de te recevoir avec mes camarades ici à la taverne. Et s'il y a une table qui a bien du caractère à Briançon, c'est bien celle de la taverne chez notre ami Jean-Michel. Bon, ça va pour la pluie.
Oui, c'est bien, c'est bien. Il va être content, Jean-Michel.
Heureux de te recevoir parce que nous avons besoin aujourd'hui, par les temps qui courent, pas très vite, d'un invité avec un avis posé, mesuré, je dirais même maîtrisé. Je me souviens d'avoir été client chez toi et quand tu m'annonçais avec une voix posée, mesurée, maîtrisée que mon bilan n'était pas terrible, eh bien quelque part ça me rassurait. Nous avons donc besoin de recevoir quelqu'un comme toi pendant cette mauvaise période que nous traversons. Même si la longueur de cette traversée reste aujourd'hui très incertaine et surtout on ne sait pas ce que l'on va trouver sur l'autre rive. Cet édito est fait habituellement pour tenter d'être drôle et de mauvaise foi, hein, c'est le slogan de l'émission Coq à l'âne. Cet édito va être plutôt celui d'un coup de gueule, donc pas très rigolo et difficilement de mauvaise foi. Un coup de gueule sur les ravages de l'inquiétude et du pessimisme de certains. L'inquiétude, peut-on vraiment être inquiet de son petit sort quand à 2000 km d'ici, un peuple est en train de se faire anéantir? Le pessimiste, peut-on afficher un authentique pessimisme plutôt que de chercher à rassurer et à se rassurer pour avancer? Sur l'inquiétude, on a entendu de nombreuses corporations, déjà pendant le Covid, dire être inquiètes. On y a eu droit à toutes les sauces, donc bien sûr, il y avait de quoi le Covid, mais pourquoi toujours afficher cette inquiétude récurrente, qui souvent a été comprise à regarder de plus près comme l'inquiétude de perdre de l'argent. Un exemple, aujourd'hui, voilà le BTP local qui est inquiet par rapport à la guerre en Ukraine. Je n'ai lu que le titre à l'époque. Et je me suis dit, sympa le BTP, ils s'inquiètent pour le peuple ukrainien, ils vont peut-être organiser des convois pour envoyer des équipes, donner un coup de main pour reconstruire des bâtiments primordiaux. Et en continuant la lecture, j'ai vite compris que cette inquiétude ne concernait que leurs pommes. Difficulté d'approvisionnement des matières premières, le BTP appelle à l'aide. Appel à l'aide? Comment oser s'exprimer ainsi en ce moment? J'ai vraiment eu un sentiment profond d'avoir un peu honte pour eux. Un peuple est en train d'être décimé et les maçons s'inquiètent. Alors agacé comme je le suis à ce moment précis de cet édito pas rigolo, je préfère faire une parenthèse pour rendre hommage ici et aujourd'hui à Freddy Voiron, patron de l'entreprise Multimédial que nous avons déjà reçu ici au Coq à l'âne et qui lui, à sa propre initiative, s'est inquiété, mais lui à bon escient, puisqu'il a organisé un convoi pour amener des affaires de première nécessité en Roumanie, tout près de la frontière ukrainienne. Vous savez ce que ça veut dire, première nécessité? Ben, c'est du papier WC, des sacs de couchage, des allumettes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, première nécessité pour le BTP. Des gros marchés publics, des bons bénéfices subventionnés. Et puis, si je me laisse aller sans prétention à une analyse géopolitico-économique, ben, ce matin, en passant devant un gros chantier de construction, j'ai vu des charpentiers slovaques, des plombiers polonais et des poseurs de placo lettoniens. On y a même vu des maçons du Cap-Vert en tout début de chantier. Alors, je sais bien qu'il y a une grosse difficulté aujourd'hui à embaucher, que les jeunes ont du mal avec le BTP, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'inquiéter, puisqu'il faut s'inquiéter de quelque chose, de cette absence quasi totale de main-d'œuvre française sur la plupart des chantiers locaux? Après l'inquiétude, le pessimisme, parlons maintenant des discours défaitistes, alarmistes, les insupportables scénarios catastrophes. Certains m'ont retourné le ventre depuis plusieurs matins, depuis un mois. Et même un jour, le président de la République a déclaré qu'il était pessimiste. On aurait presque envie de que lui ne parle pas comme ça. Non, non, pas lui, mais il a fait ce qu'il fallait faire. Alors bien sûr, tout va mal. Tout le monde pense à la même chose, le bouton rouge et les missiles qui partent dans tous les sens. Mais sans faire dans le candide, le bisounours, on peut avoir le droit de penser à moins pire. À l'intelligence, au discernement de certains. Hier soir, j'ai entendu le monsieur Macron parler de l'optimisme, de la volonté. Et puis j'aurais envie de finir là-dessus avec une phrase d'Émile Zola que j'aime bien. Rien n'est jamais fini, il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Bon, terminons avec un sourire devant le clown du cirque des élections, l'étrange Jean Lassalle, je cite, qui a dit « Si je vais à Moscou, je serai bien plus utile que le président. » Faut oser. Sauf que lui, il lui faudra deux interprètes. Le premier pour traduire le Lassalle en français et le deuxième pour traduire le français en russe. Alors, et en clown un peu plus triste, voire beaucoup plus triste, le consternant Mélenchon.
On va discuter avec M. Poutine, puis après j'irai voir M. Biden. Puis je leur dirai, là, faut arrêter. Puis on irait voir les Ukrainiens, parce que c'est quand même chez eux que ça se passe. Donc c'est avec eux qu'il faut s'entendre d'abord.
C'est fabuleux. C'est fabuleux. Hey Joe, hey Vladimir, faut arrêter. Enfin, je finis de terminer avec un clin d'œil. Je voulais aussi parler ici de notre patron à tous, notre Thierry ici présent. Un Thierry complètement à fond sur Twitter, par exemple, au sujet de Ruffin, l'insoumis, qui critique et critique encore Macron. Le commentaire de Thierry, non mais sérieux, vous atteignez un niveau de connerie énorme là. Et puis Zemmour qui dit que dès qu'il sera président, il se rendra dans le Maghreb pour mettre à plat les relations avec les pays du Maghreb. Commentaire de Thierry. Cet été, si tu vas au Maghreb, ce sera en vacances et tout ce que tu vas mettre à plat, c'est le couscous et la tagine. Toujours Zemmour qui accuse Marine Le Pen de faire la courte échelle à Macron. Thierry, t'as les boules ? Qu'est-ce que tu imaginais, une qualif pour le second tour ? On revient dans 5 ans, on leur parlera. Et j'en passe. Ah si, quand même, la pauvre nouille envoyée par Thierry à Marion Maréchal. Pauvre nouille, sacré Thierry. Remarquez que sur Twitter, vous pouvez aussi lire l'excellent Philippe Bridet qui, commentant la même déclaration de Zemmour, lui répond « Les électeurs ne veulent pas de toi. Après quelques tours de manège, ils ont vite compris que tu n'étais qu'un branlotin en peau de fesse. » En connaissant qu'il y a du vocabulaire. Vous avez bien compris, je préférerais toujours les bons mots aux gros mots. Et en voilà le gros mot, comme je les aime, il est de Michel Audiard. Un pigeon, c'est plus con qu'un dauphin, d'accord, mais ça vole.
Eh oui, ça c'est vraiment du Audiard dans le texte, absolument, tout à fait. Une question avant de rebondir sur ton édito. Question que tu peux poser à...
Oui, parce qu'on a vite des retraités, mais l'important, c'est bien sûr ce qu'on a fait avant, mais qu'est-ce que tu fais maintenant, aujourd'hui ?
Alors, je fais pas mal de choses. Il y a une chose qui est un peu en prolongement de mon métier, qui était évidemment le conseil aux entreprises. Et là, je suis président du réseau Entreprendre Alpes du Sud. Donc, c'est un groupe de départements, 0405. Et c'est assez sympa parce que on parlait de rendre service, et dans la vie c'est vraiment ce qui me fait vibrer, et là c'est une association qui rend service à d'autres chefs d'entreprise. Donc en fait, quand on a sélectionné un lauréat, on s'engage à être à ses côtés pendant 2 ans, donc c'est vraiment une période assez longue, et cette période c'est évidemment en accord avec le chef d'entreprise qui a besoin de conseils, et c'est des conseils complètement gratuits. Et alors, non seulement c'est gratuit pour le chef d'entreprise, mais en fait, il faut savoir que les chefs d'entreprise, eux, payent pour donner des conseils gratuits. Donc, c'est quand même assez fou, puisqu'ils ont une cotisation de 1 650 € ou de 750, ça dépend du chiffre d'affaires qu'ils ont. Mais en tout cas, ils s'engagent à donner de l'argent dans une association qui ne dépend pas d'un organisme quelconque, qui est complètement privé, puisque au départ, c'était Mullier. Qui avait eu un problème de 900 emplois à licencier, et ça l'avait tellement chagriné qu'il s'est dit c'est pas possible, il faut qu'on aide les chefs d'entreprise à éviter ce genre de truc. Et donc là, dans les Alpes du Sud, on a monté l'association il y a 3 ans, et j'en suis le président avec Béatrice Olive qui est ma coprésidente.
Et sinon, à part ça
À part ça, je suis avec Rémi extrêmement intéressé par le bridge, qui est un jeu comme les échecs.
Mais en plus physique.
Absolument. Non, mais sérieusement, c'est pour ceux qui aiment les jeux de cartes, c'est le nec plus ultra.
Et puis, si tu parlais des retraités et du bridge, il paraît que ça fait vivre plus longtemps parce que ça fait travailler les ménages.
Ah, les neurones,
et ça recule
absolument,
Alzheimer.
Ouais. Il paraît que pour Alzheimer, c'est excellent. Et il y a des gens qui jouent au bridge alors qu'ils sont Alzheimer, mais ils se souviennent des cartes. Donc, c'est parfait.
Alors moi, je voudrais rebondir hein, sur ton édito et mettre un petit bémol sur le BTP que tu as attaqué méchamment. Alors, on peut comprendre l'inquiétude de ce secteur, hein, comme on peut comprendre l'inquiétude des éleveurs et des agriculteurs aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que l'on peut être plein d'empathie pour le peuple ukrainien et être également investi dans l'avenir des entreprises. On l'a compris, hein, l'avenir de l'Ukraine est étroitement lié à celui de l'Europe. Et même plus, rien ne nous dit qu'il n'y aura pas de famine en Afrique dans les mois à venir, puisqu'il n'y aura pas de récolte hein, cette année en Ukraine, le grenier de l'Europe, le blé, le maïs et le tournesol par exemple vont nous manquer. Alors je ne sais pas si vous avez eu une réflexion comme la mienne au sujet de l'édito et de ce qu'a dit Philippe sur le BTP.
Moi j'ai une réflexion importante parce que Philippe est un amoureux de la langue française. Puis il s'est un peu égaré en disant la tagine alors qu'on dit le tagine.
Ah bah c'est moi qui l'ai voilà. Mal écrit, je suis désolé. Alors toi tu as retenu que le tagine, d'accord.
Eh oui, moi je suis d'origine marocaine donc c'est ça pas m'a faux. Parlé tout de suite.
C'est pas faux. Une réflexion sur le fait que le BTP s'inquiète.
Alors moi je trouve qu'on pourrait même élargir aux autres entreprises. Mmh. Parce qu'en fait il n'y a pas que le BTP et taper sur le BTP c'est... À la limite, c'est injuste parce qu'il y a toutes les entreprises et on... J'allais dire que c'est humain, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vivre quelque chose, mais qu'on perçoit mal, puisque c'est à 2000 km, même si c'est proche. Et par contre, on voit le prix de l'essence monter, on essaye de grappiller en se disant des bons conseils, va à Leclerc ou va à Intermarché, c'est moins cher. Ouais. Et en fait... Je suis un peu affligé de voir que la nature humaine, elle est quand même pas brillante et que finalement, on voit son propre intérêt et non pas l'intérêt majeur. Et c'est pour ça qu'une intervention comme Freddy, elle est vraiment à remarquer et à non seulement à soutenir, mais à amplifier. Et bon, ça, c'est des belles paroles. Bon, c'est vrai que l'accueil des Ukrainiens est assez généralisé en France, et ça c'est vachement réjouissant. Donc faut pas voir que des entrepreneurs qui sont, on va dire, à regarder leur chiffre d'affaires ou leur marge qui vont baisser, mais plutôt des belles initiatives comme ça. Et j'aimais bien la fin de l'entretien en disant la personne elle est quand même essayé de retrouver des choses intéressantes. Bon, au niveau du gouvernement, j'aurais quand même un reproche, c'est que on facilite tout pour les Ukrainiens en leur donnant la possibilité de travailler et d'être logés, etc. C'est génial, mais il faut le faire aussi pour les Syriens, pour toutes les populations qui sont massacrées et qui arrivent encore à Briançon. Uh-huh. On parlait de Briançon, là, Briançon, je crois, mais j'en suis pas sûr, qu'on n'a pas énormément d'Ukrainiens qui arrivent parce que, en fait, ils sont accueillis partout en France. Uh-huh. Mais... on a d'autres populations qui, eux, malheureusement, peuvent pas travailler alors qu'ils ont envie de travailler. Et donc, vraiment, s'il y a quelque chose que j'aimerais qu'il se passe, c'est qu'on invite les gouvernants à modifier cet aspect-là et que tous ceux qui ont envie de bosser, ils bossent. Et qu'au contraire, c'est vachement bien pour l'économie. Tu parlais tout à l'heure, Philippe, des Slovènes, des Polonais, des Ukrainiens, enfin, pas des Ukrainiens, des Roumains, les Lettons, etc. Mais en fait, moi je dis, le monde devrait être ouvert à tout le monde et ceux qui ont envie de travailler et de bosser, il ne faut pas les brider, quoi. Mmh. Ça serait vraiment la catastrophe. Et
pour info, il y a un local Solidarité Ukrainienne. J'ai discuté la semaine dernière avec les gens qui s'occupent de récolter effectivement des denrées, première nécessité. Il y a toute l'hygiène aussi dans la première nécessité. Il me disait qu'il y avait 40 familles qui arrivaient d'Ukraine. Enfin, famille sans hommes, hein. Femmes et enfants, de Nice, et qu'ils avaient tous trouvé preneur avec une famille d'accueil pour les héberger.
C'est pour ça.
Donc la solidarité, elle est monstrueuse. Après, le réflexe, comme dit Yves, à un moment donné, de penser aussi à son business, donc à ses salariés, donc à... Bon, c'est partagé.
C'est plus dans l'expression, dans le mot d'expression que j'ai voulu en remettre des couches. C'est plus ça que, bien sûr, qu'on connaît, on imagine la difficulté, mais faut faire attention comment on parle, quoi.
pour finir sur cette guerre en Ukraine, parce qu'on a d'autres sujets à voir, qu'est-ce que vous pensez de la pression qui est mise en ce moment sur justement les entreprises françaises qui sont installées, pression mise par le président ukrainien, mais également aussi par le gouvernement un petit peu en France.
Et l'opinion publique.
Et l'opinion publique. Alors, une réflexion là-dessus ?
Alors, moi, j'entendais ce matin un ouvrier de Renault qui était interviewé sur France Inter en disant... En tout cas, j'espère qu'on va payer les gens qui travaillent chez Lada, puisque Lada, c'est une filiale de Renault. Mmh. Et ils vont fermer l'usine, certainement, à cause de la pression, justement. Ils ont annoncé même, toujours ce matin, sur France Inter, qu'ils allaient baisser les marges ou les projections de résultats sur Renault, parce qu'ils sont obligés de freiner, voire d'arrêter les productions là-bas. Et moi, je suis assez convaincu que c'est vrai qu'il faut aider les salariés qui sont touchés par des mesures gouvernementales, comme ça, enfin pas gouvernementales, mais touchés par des mesures d'entreprise qui sont obligés de fermer des boîtes alors que en fait eux ils y sont pour rien. Donc il faut que les salaires soient maintenus et qu'il n'y ait quand même pas... parce que les Russes ils vont déguster. Globalement.
Renault, c'est 500 000 véhicules vendus l'année dernière en UASS.
Ouais. Donc et je sais plus, on parlait de 45 000 salariés là-bas, ou il me semble, hein. Peut-être plus, je sais plus.
Au total, la France, le contingent représente 160 000 emplois en Russie, au total.
Ouais. Et là où il y a une difficulté pour le patronat, puisque visiblement le groupe Mulier, avec toutes ses boîtes, Leroy Merlin, etc., ils sont enquiquinés parce que c'est pas des tortionnaires ni des enfoirés. Je pense que c'est vraiment des chefs d'entreprise qui ont le souci de faire tourner leur boîte et de maintenir l'emploi. Si réellement, ce que je ne sais pas, ça met en péril des activités en France et avec des répercussions en France, c'est compliqué d'arrêter d'un seul coup, d'un seul, toutes les boîtes qu'ils ont en Russie. Donc je pense que la solution, on va dire sage, c'est de diminuer sacrément pour que Poutine il soit vraiment choqué de voir que son pays va
par un volo.
Ouais, c'est ça, par un volo et va avoir des répercussions dramatiques. Mais d'un coup, tout arrêter, c'est compliqué. Enfin, je pense qu'un chef d'entreprise, il a un souci de ses salariés, aussi de ses actionnaires, bien sûr, mais parce qu'il faut de l'argent pour faire tourner les boîtes. Mais en même temps, c'est pas un problème simple. Je veux dire, c'est pas autour d'une table, on peut dire, bah, ils ont qu'à arrêter. Puis ouais,
et puis voilà. Et
si vous prenez par exemple Mulier, Leroy Merlin, c'est 18% de leur chiffre d'affaires qui est fait en Russie.
Voilà, c'est pour ça.
Donc tu peux pas.
On peut pas du jour
Covid, on a connu 18% de baisse, voire plus, mais on était aidés.
Voilà, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut pas non plus taper sur les patrons en disant c'est que des enfoirés, c'est pas